le toubab que je suis, le blancos qui a la chance que ses parents aient pu lui payer un ordinateur, n'a absolument aucun commentaire à faire sur les difficultés d'initiation au numérique des pays subsahariens. Non seulement ils ont plus de mérite que nous, mais ils ont beaucoup à nous apprendre. Nous profitons de son passage au Capitole du Libre pour recevoir Julien Marin, bénévole à l'association Bilo Tuguna, développeur pour Trade Union et Interprétis, jongleur des technos du web et baragouin en Mambara. Et j'oublie de dire d'ailleurs un costume absolument superbe
qui est
à faire peur dans les contrastes.
CPU carré petit utile.
Quel a été ton premier contact avec un ordinateur ?
Alors, je crois que je vais avoir à peu près 6 ans. Mmh. Et après, bon, c'est vrai que c'est une machine avec laquelle j'ai assez rapidement accroché. Alors, à l'époque, c'était un Atari. Voilà, ST1040, je crois. Mmh. Et bon, j'avais 6 ans, donc c'était surtout pour jouer. Mais après, rapidement, j'ai commencé à aimer, essayer de bidouiller, de le programmer, d'inventer des choses avec. Quand j'étais un peu ado, bon, je faisais partie de la frange qui n'était pas forcément super intégrée, donc j'ai fait un peu partie de la génération pour qui ça a été un peu le refuge. Et à la sortie du lycée, en fait, bon, j'avais envie de faire un petit peu autre chose, donc j'ai fait une fac de sociaux, voilà, et j'ai fait des études de genre. Et en fait, à la sortie de la fac, finalement, l'informatique a fini par me rattraper, le marché du travail étant ce qu'il est. Et donc, en fait, j'ai continué mon job étudiant avec une entreprise qui travaillait pour laquelle je travaillais. Et à côté de ça, j'ai eu envie quand même de voir un petit peu autre chose aussi dans le monde. Et une série de circonstances a fait que je me suis retrouvé un peu, sans l'avoir prévu, à avoir ma vie au Mali, en Afrique de l'Ouest, où j'essaye justement d'utiliser un peu l'informatique, mais pour faire des choses qui pour moi donnent du sens et qui me semblent utiles pour qui me semblent utiles.
Comment tu as rencontré l'association Bilo Tuguna?
Alors, en fait, j'avais commencé à faire quelques petits projets à l'époque là-bas dans mon coin, et assez rapidement, je me suis dit que rester dans son coin, c'était pas vraiment, bon, on n'est pas très efficace. Et pragmatiquement, en fait, étant donné la situation au Mali qui est parfois un peu tendue, beaucoup d'associations avaient arrêté de travailler. Et l'association Bilo Tuguna, en fait, il se trouvait que non seulement elle était toujours au Mali, elle fonctionne et elle fait du travail là-bas, et en plus, ils avaient déjà un projet informatique qui s'appelait Malinux. Il s'appelle toujours Malinux d'ailleurs, qui consiste à équiper les lycées en ordinateur. Donc j'ai pris contact avec les informaticiens et on a commencé rapidement à échanger, à se dire qu'on pouvait faire des choses ensemble.
Alors nous sommes au Capitole du Libre, donc forcément la question qui va avec, tu étais plutôt piratage de logiciels payants ou bidouille avec du logiciel libre quand tu as approché tes premiers PC et tout ça?
À l'époque, je crois que c'était en 90, j'avais pas connaissance de la notion du logiciel libre, c'était encore
Il y avait du freeware déjà.
Il y avait du freeware, mais on se passait des disquettes, donc
un petit scroll lumineux avec une tête de mort, c'est ça?
On avait des trucs sympas à l'époque, il y avait des
Il y a prescription.
En plus, c'était assez rigolo parce que les gens qui pirataient les jeux généralement rajoutaient des petites intros, des petits trucs rigolos. Donc en plus,
c'est vrai,
il y avait un petit les cracks avaient un côté assez fun à l'époque. Et écoute, aujourd'hui, je dirais 100% libre. Je connais le libre et notamment par rapport à ce qu'on fait au Mali. En fait, je pense que le libre nous permet de faire des choses que le propriétaire ne permettrait pas de faire. Voilà, clairement.
Forcément. Nous avons déjà parlé dans cette émission du projet OLPC, donc l'idée de faire un portable utilisable à moins de 100$ à des fins éducatives et qui en plus soit autonome, qu'on puisse facilement recharger et réparer. Actuellement, on trouve des mini notebooks dans ces prix-là, depuis l'Asus IIPC, donc il y a 8 ans déjà hein, quand même, plus le Raspberry Pi qui a commencé à se muscler de plus en plus. Est-ce que ce type d'ordinateur se trouve au Mali en 9 dans les classes?
Alors, en fait, aujourd'hui, au Mali, si on parle de l'école publique, parce que c'est quand même plutôt ce qui nous intéresse, clairement, non. En fait, il n'y a pas d'école équipée en ordinateur. Et en fait, c'est souvent qu'une ONG passée par là a décidé de lancer un projet qui a pris ou qui n'a pas pris. Donc, tu passes dans les écoles et tu sais que dans telle école, il y a une salle informatique. Mais c'est une très, très grande minorité aujourd'hui. Après, peut-être pour te répondre par rapport au prix de l'OLPC, je trouve qu'il avait quand même un énorme avantage. C'est que dans sa conception, c'est un objet où tu vois que c'est destiné aux enfants. Et ça, je pense qu'ils ont assez bien réfléchi, les créateurs, là-dessus, parce que c'est vrai que nous, quand on a commencé au début, on travaillait pas avec des Raspberry Pi, tout ça, on a dit, avec Bilou Toguna, quand vous amenez des ordinateurs dans les lycées, pourquoi on n'en amènerait pas dans les orphelinats? J'avais pas mal de contacts dans ce milieu-là à l'époque, pour justement que ces enfants de la rue qui ont été recueillis puissent un peu en profiter. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça, en fait, ça posait un problème de choc culturel énorme, que comment est-ce que c'est possible que les éducateurs qui n'ont pas d'ordinateur dans les bureaux acceptent qu'on donne cet objet qui coûte à peu près 2 ou 3 mois de salaire pour eux à des gamins qui vont forcément essayer taper dessus, comme n'importe quel gamin avec un ordinateur, certainement les dérégler, et on s'en fout, ils apprennent, il n'y a pas de souci. Mais comment tu vas accepter que les enfants touchent un bien auquel eux-mêmes n'avaient pas accès? Et c'est là, en fait, on s'est dit, il faut, alors nous on l'a fait avec le Raspberry, mais l'OLPC l'a fait d'une autre manière, mais faire un objet qui vraiment soit destiné pour les enfants. Et du coup, ça permet un peu de passer ce blocage-là, quoi.
On m'a raconté, en fait, qu'au Vietnam, il y a un syndrome qui consiste, en fait, quand il y a des visites guidées de personnes qui viennent du monde occidental, soit les États-Unis, du Canada ou de l'Europe, quand ils voient un paysan, etc., ils lui disent « Comment on peut vous aider? Est-ce qu'on construit un puits ?» Et qu'en général, il dit « À côté de celui-là. » Et que, en fait, l'idée, c'était de plus de la vanité, en fait, pour les donateurs, que de réellement l'utilité d'un besoin clairement identifié, quoi.
C'est possible. Clairement, ça peut arriver. Moi, je dirais ce qui peut
jouer dans
ce cas-là.
Tu l'as vu, ça ?
Ah oui. Oui. Non, mais alors déjà, si tu veux, mais je pense qu'il y a en fait un donateur, souvent quand il va faire un projet, il va vouloir que ce soit assez identifié, clairement. Donc, si son projet, il a prévu de construire 100 puits, il va construire 100 puits. Si avec le même budget, il pourrait en réparer 1000. Si passe dans un village, il y a un puits cassé, il n'a pas le budget pour le réparer. Lui, son projet, c'est de construire des puits. Il va construire des puits. Alors moi, concrètement, dans le domaine informatique, j'ai vu des écoles avec une salle informatique vieillissante qui avait du courant et de l'internet, mais des machines on va dire 15 machines sur les 20 qui étaient HS, et les autres c'était des Pentium 2, des trucs qui poussaient comme c'est pas possible. Et à côté, une salle toute neuve qui avait été construite, mais les promoteurs n'avaient pas amené le courant encore et internet. Et pour des logiques que chacun a fait sa salle et c'est son truc, ils y tiennent, les promoteurs, que ce soit leur identité. Effectivement, on avait un système, en fait, où on n'a pas pu faire un truc fonctionnel avec les deux. Donc ça arrive, oui.
Que veut dire le terme Afrikalan ?
Afrikalan, en fait, ça vient de la contraction entre Africa et Kalan. Kalan, en fait, qui est un mot en langue bambara. Donc le bambara, c'est une langue que tu as en Afrique de l'Ouest, principalement au Mali, mais aussi en Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et Kalan, en fait, ça veut dire lire, apprendre et enseigner. Ça, c'est trois sens-là. Donc on trouvait que ça collait très bien au projet et on voulait justement... c'était aussi une façon de dire dans le nom qu'on voulait avoir de l'informatique qui était adaptée, que c'était pas du copier-coller... que du copier-coller de choses qui se faisaient ici, qu'on amenait sans les modifier, mais qu'on voulait vraiment essayer de rendre les choses, on va dire, un peu plus adaptées au terrain, notamment en traduisant les activités, par exemple, ou en cherchant des solutions qui nous semblaient être ce qu'il y avait de plus adapté.
D'accord. Et donc, le projet lui-même, en quoi consiste-t-il ?
Alors, le projet lui-même, on va dire, il y a eu deux phases et deux publics. On a eu une partie, c'était toutes les associations qui s'occupaient des enfants. Donc là-dedans, tu vas avoir justement les centres qui prennent en charge les enfants de la rue, les centres d'écoute communautaire qui sont un peu comme une MJC, et toute association qui faisait un peu d'animation avec les enfants. Et les premiers appareils, en fait, c'était des Raspberry Pi qu'on branchait en fait sur la télé. On disait, de toute façon, les enfants ont la télé. Amener des ordinateurs, justement, dans ces associations-là, comme les éducateurs en avaient pas, c'était un petit peu compliqué. Ou alors dans ce cas-là, on les amène pour les éducateurs, mais on sait que les enfants ils toucheront pas, et tant mieux si les éducateurs en ont. Mais pour les enfants, il fallait un truc un peu plus adapté, donc c'était de faire une petite console de jeu éducative. Et ensuite, partant de là, on s'est rendu compte qu'il y a un terrain où, en termes d'animation, ça marchait très très bien, enfin ça marchait beaucoup mieux en tout cas, c'était les bibliothèques. Donc bibliothèque où tu peux avoir ce qu'on appelle la bibliothèque lecture publique, c'est comme les bibliothèques que tu peux avoir dans Toulouse par exemple, ouvertes à tout le monde, et aussi des bibliothèques scolaires. Mais qui généralement, en fait, comme il n'y a pas de bibliothèque publique à côté, servent aussi de bibliothèque publique, donc qui vont attirer un peu les gens. Donc souvent, c'est vrai que malheureusement, elles sont pas assez fréquentées. Donc l'idée, c'est de se dire, bah là, il y a des gens qui sont là, qui attendent que les enfants viennent, mais ils viennent pas souvent, ou ils viennent, il y a quelques-uns qui viennent, mais donc on va essayer d'amener un ordinateur. Ça permettra d'une part de les attirer. Ceux qui viennent, ils vont pouvoir pratiquer des jeux éducatifs, faire des recherches, se renforcer un petit peu dans les apprentissages. Et ceux qui viennent en trop, qui ne peuvent pas toucher l'ordinateur, et bien on peut les envoyer vers les livres. Et c'est un petit peu justement amener ces outils-là, faire tirer profit du fait qu'il y avait des personnes qui étaient là, qui faisaient l'animation pour mettre ces ressources à disposition des enfants, et aussi redynamiser un peu les bibliothèques.
Et du coup, qu'est-ce que l'on trouve dans les bibliothèques, dans les classes maliennes, quand elles sont équipées ? C'est de l'ordi neuf, mais qui a vieilli, c'est du réchappé, c'est du truc d'entreprise, ou bien c'est des solutions à base de Raspi
Tu veux dire ce que nous, on amène ?
Ah non, en général.
En général, il y a tout. En fait, ça dépend. Alors, tu as des gens qui vont le faire de manière sérieuse et qui vont prendre des ordinateurs qui vont tenir longtemps là-bas. Il y a de plus en plus de neufs. Moi, je suis avec Bilou Toguna, on équipait les lycées avec des ordinateurs qui avaient 4-5 ans. Et il y a une époque, t'arrivais, t'équipais des salles qui étaient totalement vides. Et au jour d'aujourd'hui, de plus en plus, en fait, tu vas trouver qu'ils nous disent « Ah non, mais on a des ordis neufs ». Et ça, c'est un truc qui a commencé à changer il y a 4-5 ans. Et la tendance est de plus en plus, maintenant, ils sont équipés à neuf par l'État malien lui-même.
D'accord. Okay.
Alors, je te parle de Bamako. Quand on sort de Bamako, c'est aussi un peu le cas, mais un peu moins. Mais en tout cas, c'est de plus en plus le cas. On voit de plus en plus d'équipements de meilleure qualité. Donc, c'est vrai que ramener un truc d'occasion, il faut faire attention de ne pas ramener de la trop vieille. Et ramener des poubelles, c'est fini, ça.
Et dans ce cas-là, on ne va pas se voiler la face. On va parler du problème e-waste, donc du déchet électronique. L'exportation de matériel informatique obsolète ou cassé par les Européens vers les pays en voie de développement, ce qui entraîne localement sur place un problème de pollution, puisqu'il y a du métaux lourds, de l'objet encombrant, du plastique, ABS et tout ça qu'on laisse sur place et sur lequel il n'y a pas de structure pour récupérer.
Oui, c'est ça.
Vous-même, vous y êtes confronté. Comment vous faites vous-même ?
Alors, nous, on amène des Raspberry Pi. Donc du coup, c'est pas des ordinateurs reconditionnés. Par contre, avec Bilou Toguna et d'autres associations, ça arrive qu'on amène effectivement des ordinateurs, et on se fixe une règle qui est de se dire que, en gros, si nous on n'en voudrait pas pour l'utiliser, bon, on l'amène pas. En gros, quelque chose qui n'est pas utile ici ne sera pas utile là-bas. Donc, une machine qui a 4-5 ans,
c'est une très bonne règle d'or.
Voilà, c'est ça. Non, mais c'est moi, je tourne sur une machine qui a 7 ans. Si j'estime que c'est acceptable, je me dis qu'une machine qui a 4-5 ans, elle pourra tenir là-bas un certain temps. Mais faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, la norme dans les lycées, alors je vais pas te dire tous les lycées sont équipés en neuf, malheureusement, c'est pas le cas, mais c'est un peu la norme. Donc, ils veulent aussi des choses qui soient les logiciels à jour, et ça tournera pas sur des vieilles machines. Donc, de toute façon, en fait, ils en veulent pas.
D'accord, ok. Vous filtrez en amont. Vous vous retrouvez des fois avec, on vous dit, il y a du matériel qu'on envoie, on vous finance l'expédition, ça arrivera, sera au port de Bamako, à tel numéro de quai.
Alors, quand c'est l'association Bilou Toguna, en fait, on transporte de bout à bout, c'est-à-dire qu'on va récupérer dans les entreprises, on va tester. Quand on récupère, c'est un parc, donc en fait, soit on accepte le parc, et soit on dit que c'est trop vieux et on n'en veut pas, mais la règle, c'est pas plus de 4-5 ans, c'est au grand maximum. Et donc après, on amène du matériel, on s'arrange pour que ça arrive jusqu'à Bamako, puis de Bamako jusqu'au lycée. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on n'a pas trop ce souci. Après, c'est vrai que tu as des gens qui se disent encore « Ah, mais là-bas, ils vont réparer » et qui ont peut-être pas la… Non, mais simplement ne pensent pas. En fait,
l'Africain est débrouillard, c'est bien connu, dit-on dans les salons, c'est ça ?
C'est potentiellement vrai, on répare quand même beaucoup de choses là-bas. Mais concrètement, une machine qui est trop vieille, de toute façon, les gens veulent faire tourner les logiciels actuels. Ils se forment aux logiciels qui sont actuels, et faire tourner des logiciels d'il y a 10 ans, ça ne les intéressera pas. Concrètement, ça va finir ça va juste finir à la déchetterie, et ce ne sera pas une déchetterie, ce sera dans un tas d'ordures quelque part à prendre l'eau.
Et où la sensibilisation doit-elle être faite pour le waste ? Vis-à-vis des donateurs, vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis d'associations qui importent ça, ou des États sur place pour combattre l'importation illégale ?
Je dirais, moi...
je tiens à signaler, puisqu'on enregistre, donc on est le 16 novembre 2019, c'est la première fois que l'État français a condamné une entreprise pour avoir exporté illégalement des déchets plastiques en Indonésie, si je me souviens bien.
D'accord. Écoute, c'est vrai que moi, c'est pas des... Parce que si tu veux, nous, on gère pas des envois, des choses qu'on nous envoie, on fait les envois nous-mêmes. Donc, c'est pas un problème sur lequel on était trop confronté. Par contre, moi, c'est vrai que ça m'arrive de passer dans une école, parce qu'on a les contacts à travers Africaland, parce qu'on a équipé une soixantaine, et qu'on me dit, tiens, on a reçu des ordinateurs, et tu vois des trucs, tu dis, mais non, c'est pas possible, ça. Enfin, c'est des machines qui ont 15 ans, qui la moitié, sur un parc de 20, t'arrives à en allumer 3, à faire tourner des Linux ultra légers. Bon, t'es content, t'as fait tourner tes machines. Puis tu sais que certainement avec la poussière, le machin, vu l'état du matériel, dans 6 mois, ça tourne plus, quoi.
Voir, ça consomme tellement entre le tube cathodique et le Pentium 4 que ça ne sert pas la communauté, quoi.
Non, moi je dirais faut sensibiliser les gens qui envoient et surtout avoir conscience, parce que je pense aussi qu'il y a des gens qui envoient avec une certaine image de l'Afrique en tête, et je dirais, je pense que voilà, simplement ils se plantent, et il faut peut-être leur expliquer que en fait je pense qu'ils se rendent pas compte que les gens si c'est pas bon pour eux, ça sera pas bon pour les autres.
Du coup, est-ce que vous standardisez les pièces, le matériel que vous envoyez ? Donc vous êtes surtout axé Raspi, mais par rapport aux ordi que vous amenez, vous dites on a tant d'ordi, c'est une marque que l'on sait gérer, qu'on sait réparer, où on a suffisamment de pièces détachées, ou non, cette marque on prend pas parce qu'il y a un connecteur Proprio, ou parce qu'un Mac c'est impossible à étendre.
Non, si tu veux, alors nous la règle c'est il faut que ça puisse tourner longtemps là-bas. Après les gens installent ce qu'ils veulent dessus, font fonctionner ce qu'ils veulent dessus, c'est un don, c'est pas, on n'est pas là pour voilà, on n'est pas là non plus pour on les pousse beaucoup à utiliser Linux, mais on n'est pas là pour les forcer à faire ci ou à faire ça. L'autre règle c'est d'essayer de prendre justement des parcs homogènes, c'est-à-dire la même marque de plusieurs machines de la même marque si possible, même 20 ou 30 de la même marque, pour que en cas de panne, ils puissent prendre les machines, échanger les pièces entre les machines.
CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes au Capitole du Libre avec Julien Marin pour parler du projet Africaland. Alors, combien d'ordinateurs ont été distribués via votre association, via votre programme ?
Alors, sur le projet Africaland, qui est donc des Raspberry avec du contenu éducatif, je dirais au niveau des bibliothèques, 59 a priori, et je crois que ça devait être 42 au niveau des centres, les boîtiers qu'on branchait sur les télés dans les centres qui s'occupent des enfants.
D'accord.
Qui s'occupent des enfants. Mais Bilou Toguna aussi équipe un lycée chaque année avec des parcs d'ordinateurs donc depuis 2002. Donc ça fait beaucoup d'ordinateurs.
Oui, ça en fait beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui sont prêtés aux enfants ou voire donnés ?
Alors, le prêt aux enfants, on a essayé de le faire. Ça marche très bien. Alors, c'est le petit bidon que tu as vu sur le stand. En fait, c'est une tablette qu'on a trafiquée en bidon. Un peu dans la logique de l'OL.
Vous prenez un bidon d'eau, d'huile, d'essence, un truc de 5 litres, c'est ça ?
Voilà, un bidon 5 litres. Tu coupes pour faire une fente pour l'écran. Et après, tu déportes toutes les connexions USB, l'interrupteur, l'alimentation à l'extérieur pour que ce soit plus solide. Et surtout, un peu dans la logique de l'OLPC pour que vraiment ça semble un truc qui soit pour les enfants et qu'on ne soit pas tenté de vouloir le prendre pour autre chose.
D'accord. Et est-ce que ces ordinateurs sont connectés à Internet ?
Alors, aujourd'hui, on est parti sur le principe que non. Alors, parce que tu as des salles effectivement informatiques qui sont connectées à l'Internet. Maintenant, il faut que les gens renouvellent l'abonnement. S'ils renouvellent l'abonnement, il faut que la connexion soit payante. Et si la connexion soit payante, tu es plutôt tenté d'aller sur du Facebook, du YouTube et des choses comme ça. Nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment amener des outils éducatifs. Donc, l'idée, ça a été de copier Wikipédia, de copier des sites éducatifs sous licence libre comme Pépite ou d'autres, et de partir du principe que la machine doit pouvoir être totalement autonome.
D'accord. Et si jamais ils étaient connectés à Internet, vous y mettriez un dispositif de filtrage des contenus, de censure pour éviter que les enfants se retrouvent sur un site qui ne convient pas à leur âge ?
Là, en fait, on ne s'est jamais retrouvé face à la question concrètement. Après, c'est vrai que c'est... Alors, effectivement, bon, je dirais que c'est toujours mieux de favoriser un dialogue entre les parents et les enfants par rapport à ces problématiques-là. Mais comme nous, on amène dans des écoles, on ne pourrait pas voir les parents. C'est vrai que des fois, mettre un système de filtrage, ça pourrait éviter qu'il y ait une polémique si jamais quelqu'un accédait à un contenu. Parce que il faut déjà avoir le temps de sensibiliser les parents par rapport à ça. Mais concrètement, comme on est sur du 100% hors ligne, c'est pas une question qui s'est posée pour nous.
Quand un enfant ramène une des machines chez lui, chez sa famille, dans sa maison, quel est l'accueil ?
Alors, on en a une dizaine qu'on avait fait comme ça, justement. Une école avec qui ça se passait très bien, qui utilisait beaucoup sa salle informatique. Et on avait amené des bidons pour que justement les enfants, quelques-uns comme ça, pour que les enfants puissent les amener à la maison après avoir fait une séance le samedi dans la salle informatique. Il y a un taux d'utilisation énorme. C'était très très utilisé, bon, plus sur du ludique, hein, du Tuxpain, des choses comme ça, mais un peu de recherche aussi. Donc c'était assez motivant pour les enfants. En fait, c'est une école qui a mis un système un peu, on va dire, élitiste entre guillemets, mais bon, c'est leur choix et on va pas leur dire ce qu'ils doivent faire. Mais ils prenaient les meilleurs ils faisaient une dictée chaque semaine et ceux qui avaient les meilleures notes avaient le droit d'aller sur les ordinateurs et puis quelques-uns étaient tirés au sort pour avoir les bidons. Et eux, ils étaient contents parce qu'ils disaient que depuis qu'ils avaient mis ça en place, la moyenne en dictée.
C'est vraiment élitiste. C'est vraiment élitiste. Du coup, ceux qui ont les bonnes notes ne pourront avoir que des bonnes notes.
ça tournait en fait. Ça tournait assez. Après, c'est quand même une école qui est dans un quartier populaire. Et eux, ils disaient quand même qu'ils avaient remonté, en fait, que tous les enfants essayaient, donc que ça avait quand même remonté le niveau.
Donc la gamification, ça marche même avec des ordi en bidon.
ça marche bien.
Pour voir les photos des 10 ordinateurs, rendez-vous sur notre site cpu.pm, on vous mettra le lien parce que ça vaut le coup, c'est assez génial. Ça marche relativement bien. Et à partir de là, est-ce que les parents sont tentés d'essayer, voir est-ce qu'ils motivent leur enfant, t'as intérêt à avoir une bonne note en dictée, j'ai le calcul de mes impôts à payer.
Non, mais il y a pas du tout de ça. Il y a pas du tout de ça. Après, c'est des machines qui sont vraiment, c'est comme les OLPC, c'est vraiment destiné pour de l'éducatif. Donc si tu veux, il y a pas de tentation de les utiliser pour faire autre chose.
Y a-t-il des vols, des détournements?
Non.
Et vous avez réussi à l'éviter justement par le fait que ça faisait trop jouer ou...
Non, en fait,
ou
je dirais qu'il
n'y a pas assez de parc.
Il n'y a pas plus de vols et de détournements qu'ici. Concrètement, les gens sont très droits par rapport à ça. Donc, quand tu donnes des machines, elles restent. Ces fois, c'est un problème parce que quand les écoles où ils se font donner des machines pourries, ils sont obligés de les garder parce qu'ils voudraient pas qu'on leur dise que les machines pourries qu'ils ont reçues ont disparu, alors que plus personne ne peut rien en faire. Non, concrètement, c'est peut-être. Alors, certaines personnes se disent quand tu vas en Afrique, il va se passer ça, ça. Pas du tout. Honnêtement, on n'a jamais eu ce problème-là. Le seul problème qu'on a, c'est que des fois, les gens sont trop polis et si le truc que tu leur amènes ne les intéresse pas, ils vont te dire quand même que c'est génial et ça va dormir dans un placard. Et voilà.
Pour moi, la
lutte, c'est contre les machines qui dorment dans les placards, mais le détournement, jamais.
Ça vous est déjà arrivé, on vous dit « Ah ben, on a stocké dans ce coin des ordinateurs, il faudrait nous aider à les remettre en service. » C'est arrivé à l'association Silicium pour des MO5 de réseau nano-réseau. Hein. Mais on ne leur a pas demandé de remettre en service, mais on leur a dit « C'est stocké là depuis 30 ans. »
Non, oui, on m'a déjà montré effectivement des machines, mais là, t'essayes d'en faire partir quelques-unes. Après, il y a toujours deux, trois trucs qu'on peut faire, mais honnêtement, si c'est trop
combien
vieux,
de temps
vieux.
À peu près pour se dire non, là, j'arriverai même pas à le redémarrer. Vous passez une heure par machine ou une journée?
Non, tu vois la machine, après, t'essayes de changer les pièces. Tu passes une demi-journée sur le parc et puis une journée, tu vois ce que tu peux faire. Ouais.
Vous utilisez des distributions logicielles spécialisées?
Alors, on a créé deux distributions, Malinux qui est celle pour les lycées et Africalan qui s'intéresse plus aux enfants du primaire. Donc, oui, en fait, on en a créé.
D'accord. Et ce sont des distributions qui sont disponibles publiquement si on veut essayer pour se faire une idée, installer sur une VM ou sur le petit ordi qu'on va filer au neveu.
Alors bien sûr, Malinux, il est sur le site de l'association Bilou Toguna et Africaland a son propre site où c'est Africaland, donc AFRIKALAN.org. Et donc on peut télécharger le système, que ce soit sur PC ou pour Raspberry, donc c'est possible de l'essayer. Maintenant, c'est vrai que c'est un système qui était très très optimisé pour un usage dans les conditions qu'on a au Mali, c'est-à-dire notamment en mode déconnecté. Je sais qu'en France, il y a d'autres qui ont créé des distributions éducatives, il y a Primetux notamment qui est assez connu dans le domaine, et qui est très bien, je pense, pour des environnements justement connectés où on peut envoyer les enfants sur Internet.
Et si je suis un parent français qui veut punir son enfant en lui interdisant d'aller sur Internet, est-ce qu'installer une telle distribution marche bien ?
Ah, écoute, on l'a pas conçu, on l'a pas pensé comme un moyen de punition.
Ouais.
Non, bon, après...
Mais il y a tout ce qu'il faut dessus pour faire ton devoir de géo.
Non, ça, je sais qu'en certaines écoles ont des réseaux encore déconnectés en France, justement pour éviter tout le problème des contenus sensibles. Mais après, de toute façon, je dirais tous les outils qui sont dans Africaland, c'est basé sur les logiciels libres comme KiWix pour notamment avoir le Wikipédia hors ligne et d'autres acteurs. En fait, on a essayé... Tout ce qu'on a créé, on l'a packagé. Donc et tout le reste en fait sur le site on donne le lien vers les sites originaux pour les retélécharger, donc si des gens qui voudraient faire de l'informatique éducative déconnectée le souhaitaient, ils pourraient soit télécharger Africaland soit aller vers les liens des contenus originaux, des contenus qu'on a créés.
Est-ce que vous avez essayé d'autres distributions comme par exemple la Emma Ubuntu, est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez regardées, montées par d'autres associations? Oui, je suis obligé par le CSA que vous me parlez. Faites pas que la promo de votre produit, il faut en citer au moins deux d'une manière positive.
D'accord. Je connais Emma Ubuntu, je connais Primetux, qui moi je pense sont bien pour les usages pour lesquels elles ont été prévues. Nous, si tu veux, c'est vrai qu'on a des problématiques spécifiques. Il fallait qu'on tourne sur Raspberry. Bon, maintenant que Primetux tourne sur Raspberry, il fallait qu'on ait le problème de la déconnexion à gérer. Du coup, ça nous semblait optimisé pour cet usage-là.
Avec l'arrivée des réseaux par satellite en orbite basse ou encore les réseaux en connexion à accès gratuit mais uniquement sur un Internet filtré, je pense notamment à Facebook Zero qui propose aussi la Wikipédia dessus dans certains pays, c'est une solution qui est acceptable ou justement c'est trop filtré pour s'autoriser à laisser les machines y accéder?
Ah, écoute, pour l'instant, on n'a pas eu le cas au Mali. Voilà. Après, j'ai envie de te dire, au Mali, alors peut-être que j'ai donné une mauvaise image du Mali et je m'en excuse, il y a de la 3G maintenant, même dans les brousses,
si tu veux,
mais de la 3 pour l'instant, la 4G en ville, mais de toute façon, t'as des smartphones qui se répandent de plus en plus avec des
choses à très bas prix. Pour le coup.
Mais le problème, c'est qu'il faut recharger du forfait, et si tu veux, si tu payes ton forfait, bah, toi-même, t'auras peut-être pas forcément envie d'aller sur Wikipédia, tu voudras aller sur d'autres sources, comme regarder des vidéos, des choses comme ça. Ce qui est quand même, aujourd'hui, la consommation de l'Internet, je pense, c'est quand même une grosse partie de Facebook et de YouTube, hein, on va pas se mentir. Et il n'y a pas de raison qu'ils fassent différemment de nous. Et donc, si tu veux, le fait d'avoir de pas leur demander d'avoir un abonnement à prendre en charge, c'est le fait de s'affranchir toutes ces questions-là et de s'assurer qu'au moins le contenu éducatif lui sera disponible.
CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes au Capitole du Libre avec Julien Marin pour parler du projet Africaland. Africaland,
c'est Calan.
Ah, Calan. Ah, bon, voilà.
Y a pas de soucis.
Je me plante, ça, je comprends. Vous vous éloignez du Raspberry Pi, pourquoi ?
Non, c'est pas éloigné du...
C'est l'idée de se dire, c'est mieux quand c'est moins cher, voire gratuit, donné.
Alors, non, on a essayé en fait pas mal de trucs, mais on n'a pas forcément souhaité s'éloigner. On a juste voulu voir si on trouvait d'autres solutions. Par exemple, le truc des bidons, c'était très expérimental, mais de se dire, on va essayer si on trouve une solution avec l'écran, la batterie, tout ce qu'il faut, parce qu'on n'a pas sur le Raspberry Pi.
Et puis, c'est très instagrammable sur les salons, c'est pour les levées de fonds. C'est génial.
C'est assez joli, mais on va être honnête, on a réussi à en faire 10, il faut une journée et demie pour en produire et faire de les soudures sur les tablettes, ça c'était pas super optimal. Mais on essaye d'expérimenter un petit peu d'autres trucs, parce qu'il faut pas, c'est pas parce que le Raspberry Pi marche très bien, mais ça veut pas dire qu'il faut pas essayer de voir s'il y a pas d'autres trucs qui seraient bien aussi. On a envie d'essayer un petit peu tout ce qui pourrait nous sembler utile.
Mais du coup, est-ce que ça vous a donné l'idée, par exemple, de donner les plans à des bricoleurs, des artisans, des dépanneurs locaux pour dire, voilà, comment vous pouvez monter un ordinateur à un vil prix ? On vous fournit X cartes pour que vous puissiez le faire, ce genre de choses ?
Ben, on s'était posé la question à un moment donné. Enfin, moi, je m'étais posé la question. C'était une envie que j'avais parce que c'était de pouvoir un petit peu lâcher le bébé et que justement faire quelque chose qui puisse un peu profiter aux gens et qui puisse créer une activité avec. Maintenant, le Raspberry Pi, c'est pas forcément en fait pour son bas coût qu'on l'a choisi. C'est plus parce que justement, c'était un peu sur le modèle de l'OLPC de faire un truc qui soit vraiment destiné à l'éducatif, qui consomme très peu de courant, qu'on puisse, parce qu'on a beaucoup de bibliothèques sur panneaux. Mais du coup,
panneau solaire,
si tu veux, oui, panneau solaire, pardon. Et en fait, si tu veux, au-delà de ça, si t'es pour faire des ordinateurs de salon, si tu comptes le prix d'achat du Raspberry, de l'alimentation, d'avoir une carte SD à peu près correcte, finalement, comme on en revenait rapidement à l'idée que tu disais tout à l'heure, que les notebooks vont assez facilement concurrencer avec peut-être moins de limites sur les logiciels que tu vas installer et peut-être quelque chose de plus standard par rapport à ce que connaissent les réparateurs sur place. Je dirais pour nous, en fait, l'avantage du Raspberry Pi, c'était pas forcément le coût. Et du coup, faire un marché local là-dessus... Je suis pas sûr, en fait, si ceux qui se lanceraient là-dedans, ils gagneraient réellement.
Forcément. Est-ce que tu formes toi-même, justement, sur place, des gens à dépanner un PC, logiciellement, voire matériellement ? Alors, est-ce que ça fait partie, finalement, du projet ou c'est incidentiel et tu l'as mis à côté ?
Alors, ça fait pas partie de l'objectif du projet. Par contre, c'est totalement incidentiel. Ça veut dire que généralement, bah, quand on se rend dans une région, de toute façon, on rencontre les responsables, ce qu'on appelle les CAP, les centres d'animation pédagogique. C'est un peu qui sont entre l'académie et les écoles et qui vont nous dire, bah, il y a des écoles par-ci, il y a des écoles, enfin, il y a telle et telle école ou pas du tout qui a des équipements informatiques ou des bibliothèques dans ma circonscription. Et s'il y a une salle informatique où il y a des besoins, automatiquement ils vont te dire. Et là, bien évidemment, bon, on essaye un petit peu de transmettre ce qu'on peut. C'est pas du tout l'objectif principal, parce que c'est pas quand on dit qu'on a équipé 60 écoles, bah, celle où on va dépanner une seule existence, c'est pas nous. Mais bien évidemment que faut être pragmatique. Si tu peux faire en sorte qu'un truc qui marche pas se mette à marcher, on va essayer de le faire, quoi.
Super.
Voilà, c'est pas l'objectif qu'on va afficher publiquement. Mais oui, si on peut.
Si c'est juste de l'huile de coude, c'est moins cher que quelques litres de pétrole pour faire venir du matériel.
Je dirais, il y a une dizaine d'écoles, 10 à 15 salles, on va dire, qu'on n'a pas équipées, dans lesquelles on bosse, en fait, des fois.
Voilà. Une des polémiques dans nos pays de riches qu'on a, je veux dire la France, hein, oui, qui est riche, je sais, ça peut surprendre pour certains, mais par rapport à d'autres, on est quand même riche. C'est le partenariat entre l'éducation nationale et Microsoft qui fait que les programmes éducatifs sont axés autour des produits de cette entreprise. Est-ce qu'il y a le même problème au Mali, et pas forcément avec Microsoft, hein, ça peut être avec Tencent, avec Xiaomi ou d'autres intervenants ?
Écoute, pour l'instant, j'ai pas vu trop de boîtes de logiciels essayer de s'implanter dans les écoles. Peut-être que dans le futur, elles le feront, mais là, je dirais, comme il y a très peu d'écoles équipées, c'est encore peut-être qu'elles se disent qu'il n'y a pas de marché. De toute façon, dans l'école publique, je sais pas si elles n'en sont pas encore à trouver un marché là. On les a pas trop dans les pattes.
C'est pas forcément un marché. Microsoft a fait ça pour éduquer les gens, pour que ça leur vienne pas à l'idée d'utiliser LibreOffice ou Google Docs.
Écoute, pour l'instant, c'est pas trop retrouvé que j'ai pas trop vu Microsoft en tout cas s'implanter dans les écoles au Mali. Par contre, c'est vrai que de fait, quand tu vois des lycées équipés, automatiquement, le problème, c'est que tout le monde a été formé à Word, Excel, et automatiquement, ils vont demander à les installer sur les machines. Alors, on a tout essayé, on a essayé de mettre LibreOffice avec le bandeau quand on équipe des lycées. Je dirais que t'as toujours le vieux discours de les enfants, quand ils vont sortir, ils vont être face à de l'office et qu'il faut qu'on les forme face à ce à quoi ils sont. Je dirais, il y a un truc qui complexifie un peu la chose, c'est que l'Afrique a encore un système, le Mali a un système d'apprentissage qui est beaucoup axé sur la mémorisation. Et du coup, tu vas beaucoup.
C'est le par cœur ?
C'est encore beaucoup du par cœur, hein. C'est encore beaucoup de la leçon retenue par cœur. Et donc, effectivement, si tu changes l'interface, c'est peut-être plus difficile de s'adapter, c'est encore plus difficile de s'adapter. Donc, il y a un problème de formation des formateurs qu'il faut résoudre avec LibreOffice. Et ensuite, le problème qu'ils vont dire, mais comment ils vont réappliquer ça à côté ? Et nous, c'est vrai que notre objectif numéro un, c'est quand même que les machines ne prennent pas la poussière. Donc, on les amène avec Linux, mais on leur dit, c'est vos machines. On essaie de les convaincre que Linux, vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'émancipation par rapport à Microsoft. Mais bon, s'ils décident d'en changer, on ne peut pas les obliger. C'est pas notre rôle.
Mmh. Outre les dons financiers, quels sont les besoins pour AfricaLand ? De la programmation, du graphisme, du contenu ou simplement des correspondants épistolaires ?
Alors aujourd'hui, la grosse question qu'on se pose, alors AfricaLand et pas que AfricaLand, parce qu'il y a aussi des gens qui font la même chose. D'ailleurs, il y a les Enfants de l'AIR, qui est une association en Guinée qui va aussi avoir une conférence demain matin au Capitole du Libre.
Dimanche 17 novembre.
Voilà, demain.
On mettra le lien du coup sur pour la captation.
Après, il y a des gens au Togo avec qui qu'on est en contact, des gens en Centrafrique, des gens à Madagascar. Certains utilisent AfricaLand, d'autres le font avec leur propre truc. Mais la grosse problématique, tout ce qu'on a, c'est d'avoir du contenu qui est d'Europe, et que si tu copie-colles des choses qui sont pas du tout adaptées ou tu vas donner aux enfants l'image que l'informatique c'est un truc de blanc parce qu'il y a que des petits blancs dessinés sur alors déjà c'est un problème en France aujourd'hui pour la mixité, mais en plus là-bas c'est encore plus pas représentatif. Faire de l'arithmétique en euros, bon ben ça parle pas. Donc c'est le problème de la création de contenu adapté. Là c'est le gros problème qu'on a, et là on essaie de plus en plus de se dire ben, au lieu de faire des trucs chacun dans notre coin, faudrait qu'on essaie de se monter en réseau, enfin même juste des échanges, tu vois, de se connaître les uns les autres, et puis d'arrêter de tous réinventer la roue et essayer un petit peu de déjà d'échanger ce qu'on fait. Et la deuxième problématique, et là ce serait vraiment l'idéal, ce serait d'amorcer une politique de création locale de contenu adapté. Voilà, ce qui est pas simple, hein, parce que créer du contenu pédagogique, ça demande beaucoup de compétences. Voilà, c'est un métier. Ça serait l'idéal. Voilà, aujourd'hui la grosse problématique, c'est d'avoir du contenu adapté, parce que avec l'énergie qu'on a, on peut en créer un tout petit peu, mais c'est vraiment une goutte d'eau.
Pour terminer, quelle est la réaction, le retour qui t'a le plus ému et qui t'a donné envie de continuer?
Par rapport à moi, c'est quand je vois les gamins qui reviennent dans la bibliothèque, moi ça me fait plaisir, si tu veux, et puis que les enfants puissent avoir un peu un autre rapport à l'apprentissage, que ce soit un peu moins du par cœur, parce que face à l'ordinateur, c'est toi qui manipules. Moi, quand je vois les enfants qui l'utilisent, ça me motive pour continuer.
Julien, merci beaucoup. Bon festival du Capitole du Libre.
Pas de souci.
Bon de retour au Mali.
Bah, écoute, merci.
Franchement, une belle initiative. Merci et longue vie à AfricaLand.
Merci beaucoup.